Vous êtes sur RTL.
Pascal Praud. Faut-il interdire les cigarettes à l'écran dans les films? C'est une des questions qu'on pose aujourd'hui. Nous sommes avec Cédric qui habite Bourg-en-Bresse, qui est chef d'entreprise. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et vous êtes fumeur, je le précise.
Et je suis fumeur, mais je pense que c'est pas en enlevant deux minutes de cigarette dans un film que ça va, enfin que ça permet de fumer. Enfin, on va en discuter, mais je vois pas bien l'intérêt.
Dieu est un fumeur de Havane. Christelle, le rappel des titres.
Trois personnes arrêtées en Italie, responsables de la société qui gère le téléphérique qui s'est écrasé à Stresa, faisant 14 morts. Elles sont soupçonnées d'avoir volontairement désactivé le frein d'urgence. L'avenir politique de la Nouvelle-Calédonie, Jean Castex reçoit les responsables politiques de l'île pour renouer le dialogue entre indépendantistes et loyalistes. Un nouveau référendum aura lieu d'ici octobre 2022. Huit jeunes hommes de 17 à 21 ans arrêtés dans la Loire et le Rhône, une dizaine de jours après l'agression d'un policier à Rive-de-Gier. Ce dernier avait été grièvement blessé à la tête. Il ne reprendra pas le travail avant de longs mois. Une femme au Louvre, le plus grand musée du monde, sera dirigée pour la première fois de son histoire par Laurence Descartes. Elle est à la tête du musée d'Orsay depuis 4 ans. Cette historienne de l'art a été choisie par l'Élysée. Elle souhaite multiplier les échanges entre le Centre Pompidou et le musée d'Orsay.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Merci Christelle. La Ligue contre le cancer dénonce à nouveau la valorisation du tabagisme dans les films français et a publié ce mercredi une enquête sur plus de 150 films. En amont d'ailleurs de la journée mondiale sans tabac du 31 mai. C'est la troisième édition de son enquête menée depuis 16 ans avec l'Institut Ipsos, assorti cette fois d'un sondage auprès des jeunes adultes. Et dans un film, la présence du tabac, 2,6 minutes en moyenne, équivaut à 6 spot publicitaire. 90% des films entre 2015 et 2019 comprennent au moins un événement, un objet ou un discours en rapport avec le tabac. Cédric, qui est fumeur, nous dit que ça n'aurait pas de sens d'interdire la cigarette dans les films.
Ben pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est pas parce qu'on regarde 2 minutes 6 d'un film, ça me donne envie de fumer. J'ai regardé La Petite Maison dans la Prairie toute mon enfance, je suis pas devenu agriculteur. Je veux dire, à un moment, faut être sérieux, faut lutter contre le tabagisme, ça c'est une certitude. Mais le film, c'est du cinéma, je veux dire, c'est de la virtualité. Aujourd'hui, je vois pas Al Capone rentrer dans son bureau sans une cigarette à la bouche. Je veux dire, ça fait aussi un peu partie, ça fait un peu caïd, ça fait un peu. Mais c'est du film. Qu'il faille lutter contre le tabagisme, il n'y a pas de problème. Mais on s'attaque pas au fond du problème. Ou alors, dans ces cas-là, c'est pareil. Tous les films de voitures, on arrête. On bride toutes les voitures à 80 km/h, comme ça, on est tranquille. Et puis, on n'a plus qu'à réaliser des oui-oui et puis des bisounours. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Il faut quand même. Je trouve qu'on ne s'attaque pas au fond du problème. Ce n'est pas en enlevant une scène d'un film. Et puis personnellement, encore une fois, parce que vous regardez un film, vous voyez quelqu'un en train de se piquer à la cocaïne dans un film, vous avez envie de faire la même chose?
Mais non, mais c'est ça qui est un peu, pour tout vous dire, parce que tout à l'heure il y avait un tabacologue qui était là et qui expliquait que c'était incitatif. Sur quoi il se repose? Sur quoi ces études reposent? Donc, ça m'intéresserait vraiment. Quels sont les gens qui ont commencé à fumer en voyant un film avec un fumeur? Je vous assure, je suis un peu circonspect.
Moi, j'ai pas commencé à fumer parce que dans les films, ça fumait. À un moment, il faut être sérieux, je veux dire.
Non, et puis on peut tout interdire, comme vous le disiez très justement. C'est-à-dire qu'on peut interdire les westerns. Si on commence à mettre de la morale dans la fiction... je ne sais pas où on va s'arrêter. Hein.
Je ne veux pas être méchant, mais dans ces cas-là, on arrête de diffuser Les Ch'tis et Les Marseillais, ça fera du bien à la langue française. Hein. Je veux dire, à un moment... Je veux dire,
ça, c'est un bon exemple.
Non,
vous
mais
avez
si
raison.
On passe sur leurs études...
Mais vous avez raison,
sait,
vous avez raison.
On sait qu'on dit dans l'école, les élèves français sont de plus en plus mauvais.
Mais
arrêtez
avez raison.
Toutes ces émissions où on invente des mots qui ne veulent rien dire. Arrêtez ces émissions dans ces cas-là.
Mais vous avez raison, très bon exemple. On ne devrait passer qu'à la télévision française pour bien apprendre le français le soir à 20h30, que Corneille, que Racine, que Molière, etc.
Exactement.
Vous avez parfaitement raison.
Non, mais je veux dire, à un moment, si on part sur leur base à eux, dans ces cas-là, d'accord. Mais il faut lutter contre le tabagisme. Moi, je suis fumeur. J'aimerais qu'on mette de l'argent là-dedans pour lutter contre le tabagisme. Mais s'en prendre au cinéma, après la période qu'on vient de traverser, je trouve ça un peu facile et... Non, vraiment, je comprends pas leur méthode.
Alors c'est vrai que quand on a, je sais pas quel âge vous avez d'ailleurs, Cédric, vous êtes un peu plus jeune que moi.
J'ai eu 41 ans hier.
Alors, moi, j'ai grandi dans les années 70. Donc, à la télévision française, c'est une banalité de le dire, mais Bernard Pivot, Polak, les plateaux étaient enfumés. Et c'est vrai que j'associe cela, et c'est mal, hein, sans doute, à une forme de liberté. Donc, j'ai tort, bien sûr, parce que le tabagisme fait des ravages, bien sûr.
Après, on est dans les années 70. Moi je suis un fan de télé. Je connais la télé depuis sa création. C'est vrai qu'à l'époque, c'était des aquariums sur les plateaux télé.
Je raconte toujours cette même anecdote qui est invraisemblable. J'avais un professeur, un instituteur en CM2, je vous jure que c'est vrai. Il s'appelait Monsieur Nicolaï. Il était à l'école du Bois-Saint-Louis à Nantes. Je l'ai eu en CM2. Tous les matins, vous entendez, tous les matins, il arrivait avec 5 paquets de gauloises qu'il mettait sur le bureau. Et il les fumait dans la classe toute la journée. Aucun élève, évidemment, ne s'est plaint. Mais surtout, aucun parent ne s'est plaint, ce qui nous paraît fou. Et ça, c'était monsieur, en 1975.
Pascal, moi, j'étais en CE2 à l'école Charles Péguy à Bourg-en-Bresse. J'ai eu un maître remplaçant qui fumait dans la classe.
Pareil. Et nous, tous les jours. Et il nous disait, ne commencez jamais. Il avait un accent corse. Ne commencez jamais, les enfants, à fumer. Il est en train de cloper pendant toute la journée.
Dites rien sur la Corse, parce que je suis corse. Hein.
Mais il était merveilleux. C'était un institut à l'ancienne.
Ce que je veux dire par là, merveilleux. C'est que, par exemple, qu'on lutte contre ça, ok, qu'on lutte contre le tabagisme, il n'y a pas de problème. Mais pas, il faut arrêter d'aller chercher des polémiques inutiles, là.
Je suis d'accord. Ça sert à rien. Tous ceux qui ont eu Monsieur Nicolaï en 75 et bien avant, à l'école du Bois-Saint-Louis, crois-moi, tous s'en souviennent. Cédric, merci. Jean-Marie va être là dans une seconde. Alors évidemment, Jean-Marie, il est buraliste. Donc là, je pense que... J'imagine ce qu'il va nous dire. Bon, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Quand on parle de cigarettes, généralement, on passe cette chanson. Christian Panvert, notre ami de Tours, correspondant pour RTL, nous écoute et il m'écrit « Au lycée, mon prof de mathématiques donnait tous ses cours en fumant des cigarettes. On savait, si on avait bien assisté à son cours, à l'odeur de nos vêtements. » Mais ça paraît fou de dire ça, qu'un prof fumait en classe. Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est l'Erex, c'est la question qui vous fait réagir au 3210. Comme Cédric qui était avec nous, faut-il interdire la cigarette dans les films français? La Ligue contre le cancer lance un cri d'alarme. Il y aurait trop de fumeurs sur nos écrans. Le docteur Bernard Basset, président de l'association Addiction France, était l'invité de RTL Midi.
Indiscutablement, la présence du tabac dans les film est incitatif. La présence du tabac dans les films est plus importante que dans la réalité. On ne représente pas totalement la réalité dans les films. Il y a en France, comme vous l'avez rappelé, il y a 25% de fumeurs. La présence du tabac dans les films est beaucoup plus importante que la présence dans la vie réelle.
Comprenez-vous ce coup de gueule de la Ligue contre le cancer? Absolument pas, nous dit Charles sur la page Facebook de l'émission. Et que faites-vous alors? De l'alcool, les bagarres, c'est mal aussi. Que dire des armes? Arrêtons un peu. Vous pouvez rajouter la drogue, lance Yves, les courses-poursuites en voiture. Rajoute Thierry, les personnes qui se rendent cocu, on nous prend pour des neuneux. Olivier est assez désespéré. Déjà que Lucky Luke n'a plus le droit de fumer. Et Jean Gabin avec sa cigarette. Serge Gainsbourg. Enfin pour Catherine, voir des gens fumer dans des films ne m'a jamais incité.
Monsieur Albert Hirsch est avec nous. Il est administrateur de la Ligue contre le cancer. Bonjour monsieur Hirsch.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, évidemment, il faut lutter contre le tabagisme. C'est 75 000 morts par an, hein, je crois. Mais est-ce la bonne solution? Et si on met un doigt dans cet engrenage, pourquoi ne pas supprimer aussi des hommes qui boiraient un scotch, un whisky, du vin, que sais-je? Parce que l'alcool est aussi dangereux peut-être, sinon plus, que la cigarette.
Écoutez, allô?
Oui.
J'ai été à trop d'enterrements de victimes du tabac. J'ai vu trop de malades mourir du tabac quand j'étais chef de service de pneumologie à l'hôpital Saint-Louis pour assister à la manipulation de l'industrie du tabac qui prend en otage l'industrie du cinéma. On peut montrer la cigarette, on peut montrer le fait de fumer, mais de là à faire l'apologie de la cigarette, il n'en est pas question. C'est quand même tout à fait remarquable que 9 films français sur 10 soient l'objet de placements de produits par l'industrie tabac. Laquelle d'ailleurs, l'industrie du cinéma, elle, elle est supportée financièrement par le CNC. Songez qu'en 2019, 240 films français ont été supportés financièrement par de l'argent public. Et en même temps, d'ailleurs, le ministère de la Santé a un programme de réduction du tabagisme, laissant à penser qu'il y aura une génération d'enfants non fumeurs dans les années 2030. Donc, on révèle cette manipulation, de ce placement de produits au public.
Ça, faut apporter des preuves, monsieur Hirsch. Hein. Faut apporter des preuves de ce que c'est très grave ce que vous dites. Vous dites que l'industrie du tabac, faut apporter des preuves. C'est-à-dire que les créateurs, moi je n'en étais pas là. Pour moi, c'est un créateur qui imagine qu'un de ses personnages fume le cigare, la pipe, que sais-je, parce que dans le scénario ça existe, parce que c'est une indication de personnalité que donne le créateur. Et vous vous dites c'est du placement de produits. Si tel est le cas, faut que vous apportiez les preuves de cela.
Eh bien, la preuve, c'est que on fume sans commune mesure dans la fiction que sont les films. Encore une fois, il s'agit de protéger une industrie fragile qui est associée à la santé, au bien-être et qui est effectivement extrêmement fragile actuellement. Il s'agit donc de la protéger et de la délivrer de cette industrie qui distribue un produit mortel. Et la preuve, c'est que, et vous l'avez dit vous-même, on beaucoup plus dans la fiction que dans la société française. C'est quand même extraordinaire.
On tue plus dans la fiction que dans la société française.
Laissez-moi développer. Laissez-moi développer les arguments.
Oui, je suis pas sûr que ce soit un argument, mais enfin.
Laissez-moi m'exprimer. La prévalence, la fréquence du tabagisme dans la société française diminue depuis une vingtaine d'années. Bref, depuis la loi Évin, elle diminue. La loi Évin interdit la promotion sous quelque forme que ce soit dans les médias qui s'imposent à tous. Et vraiment, le cinéma est un média qui s'impose, notamment aux personnes, aux jeunes. Eh bien, c'est quand même remarquable que cette enquête qu'a faite la Ligue sur 15 ans montre une stabilité de la fréquence du tabagisme.
Mais alors, pour les voitures, vous voulez également supprimer les voitures qui roulent vite parce qu'on...
Excusez-moi, on ne parle pas des voitures.
Moi, j'en parle parce que jusqu'où on finit.
Non, ne m'emmenez pas ailleurs. Moi, je parle
mais les westerns, faut les supprimer aussi.
Non,
parce que ça peut inciter quelqu'un à tuer un western.
Non, écoutez, je ne me laisserai pas entraîner par des arguties.
Pardonnez-moi, ça vous ennuie. Je comprends que ça vous ennuie parce que c'est des excellents. Comme c'est des bons arguments, ça vous ennuie. C'est normal.
Non, nous parlons de 75 000 morts par an, monsieur. 75 victimes de l'industrie du tabac.
Et c'est le cinéma qui est responsable. Et c'est le cinéma qui est responsable, monsieur Hirsch.
Pas du tout.
Franchement, c'est.
Il s'agit.
On a l'impression de revivre des arguments qu'on a vus avec le Covid. C'est-à-dire que vous dites 75 000 morts et on n'a plus le droit de parler. Et c'est ça qui me fascine, en fait, dans ces arguments-là et dans ces discussions-là. Vous nous dites 75 000 morts, donc je dois me taire.
Non, écoutez, moi...
Je vous apporte des arguments. Déjà, il faut m'expliquer en quoi c'est incitatif lorsque je vois un personnage qui fume une cigarette temps. Et à ce moment-là, je vous dis, si c'est incitatif, c'est incitatif pour la voiture, c'est incitatif pour le western et c'est incitatif pour tout.
Les auditeurs, nos auditeurs ont probablement pris connaissance de l'enquête Ipsos parallèle qui montre que les jeunes de 18 à 24 ans, un échantillon représentatif de 1100 jeunes, ont eux-mêmes déclaré que le fait de voir fumer ou qu'il y ait une atmosphère tabagique dans les films français les incite à fumer. Hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est de donner un sondage sur un échantillon représentatif. Si ça n'est pas un argument, alors où sommes-nous ?
Eh bien, merci en tout cas, monsieur Hirsch. Vous allez rester avec nous.
C'était un plaisir.
Mais non, restez avec nous, parce qu'un buraliste va vouloir entrer en conversation avec vous. Moi, je suis dans un rôle que vous comprenez. Forcément, oui. je le fais, j'espère, avec courtoisie. Mais en même temps, je vous apporte des arguments qui peuvent permettre le débat contradictoire, monsieur Hirsch. Mais le débat, c'est la vie, comme dit souvent notre ami Christian Olivier dans une émission de sport. Donc, merci de cet échange. Et puis, peut-être qu'un buraliste, après la pause, va vous apporter une autre forme de contradiction. Merci en tout cas d'être avec nous et merci de jouer le jeu, parce que c'est ça qui est important. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Hirsch est resté avec nous et vraiment je le remercie de jouer le jeu et du débat contradictoire. Il est administrateur de la Ligue contre le cancer. Je rappelle qu'on imagine ou que la Ligue contre le cancer imagine supprimer la cigarette à l'écran. Mais figurez-vous que Cyprien Signy est arrivé dans le studio, qu'il porte une écharpe de l'Olympique de Marseille, parce que le 26 mai, comme vous le savez, Marseille a gagné la Ligue des Champions. Il était même pas né, si ça se trouve, en 93. Non mais vous allez vous balader dans tous les, dans toute la radio avec... en supporter de l'OM aujourd'hui.
Vous savez que cette écharpe a été achetée le lendemain de la finale ou le surlendemain de la finale, vous voyez, champion d'Europe 93, c'est écrit dessus. Et donc je la ressors une fois par an, hein, parce que depuis, ça ne passe pas grand-chose.
Mais quel âge vous aviez en 93?
J'avais 12 ans.
Bon, et je rappelle que évidemment chaque 26 mai à partir de minuit 5, les Marseillais s'envoient des textos.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire, ouais. Parce que en France, on a le 14 juillet, mais à Marseille, vous avez le 26 mai. Voilà.
Il y a deux dates importantes dans la vie, 1515 Marignan et 26 mai 93 Munich.
Ça devrait être férié le 26 mai à Marseille.
Ben, je pense.
Bon,
ouais.
J'allais dire que tous les jours sont un peu fériés à Marseille.
Ouh,
mais c'était vraiment pour faire un bon mot, ouais, que je ne pensais pas du tout. Bon, merci, n'hésitez pas à revenir, hein, bien évidemment. Bon, monsieur Hirsch est là. Jean-Marie est buraliste. Bonjour Jean-Marie, vous avez écouté monsieur Hirsch. Ah.
Bonjour Pascal, oui,
et
oui bien sûr.
Je vous donne la parole. Adressez-vous à monsieur Hirsch.
Non, mais j'espère simplement ne pas être coupé la parole, puisque on en parle à un professeur. Hein. Bon, c'est un ayatollah du tabac, ça tout le monde le sait. Hein. Par contre, je voulais simplement préciser une chose, c'est que la loi E20, c'est de 1991. Donc ça fait pas 20 ans, ça fait 30 ans. Comme quoi, la politique, et puis le savoir, c'est comme la confiture, bon, on en a, plus on l'étale.
Soyons courtois quand même, soyons aimables, on peut débattre dans la courtoisie.
J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec ce professeur. Bon, comme vous avez dit tout à l'heure, du moment qu'il dit quelque chose, les autres, s'ils pensent le contraire, eh bien, ils ont tort. Moi, simplement, parce que c'est pas le tout de dire il faut faire ci et pourquoi ça. Moi, je propose une chose. Pourquoi ne pas mettre un pictogramme avec une cigarette? Vous savez, il y a moins 16, moins 10, moins 18, et puis il y a un pictogramme avec une cigarette quand on regarde un film. Comme ça, au moins, les gens qui verront un pictogramme avec une cigarette, eh bien, ils feront attention. Comme quoi, il se peut qu'il y ait des acteurs qui fument la cigarette. Deux yeux.
J'ai rien compris, mais j'espère que les gens ont compris, parce que j'ai pas compris l'histoire du pictogramme.
Pictogramme, comme vous regardez votre télévision, vous regardez un film, il y a un pictogramme en bas à droite avec moins 10.
Ah oui, d'accord, là j'ai compris.
Voilà. D'accord. Alors pourquoi ne pas, par exemple, mettre aussi un autre pictogramme supplémentaire avec une cigarette, voyez? Comme quoi, c'est une boutade, mais oui. Par contre, moi, l'autre jour, j'ai vu au César, le capitaine Merlot se met à poil, ça m'a pas spécialement donné envie de rentrer dans la gendarmerie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais bon,
Vos arguments, Jean-Marie, ne sont pas extraordinaires, si vous me permettez.
Non, c'est pas qu'ils sont pas extraordinaires. Je suis buraliste. Je vends du tabac, c'est un produit d'État. Non, mais faut quand même pas oublier que l'État récupère quand même 14 milliards d'euros tous les ans de taxes sur le tabac. On est 22 000 professionnels. Bon, moi j'aimerais savoir si les associations telles la Ligue contre le tabac, il me semble qu'elle est subventionnée par l'État, donc des fonds publics. Bon, alors où est-ce qu'on va? Moi je suis outré quand j'entends qu'on va interdire des acteurs de fumer sur un plateau ou je sais pas, mais on devient complètement fou. Ça va plus du tout là.
Bon, alors Monsieur Hirsch, je vous réponds. Monsieur Hirsch, je vous réponds et laissez Monsieur Hirsch répondre, Jean-Marie.
Ah, mais bien sûr.
Monsieur Hirsch.
Bonjour, Jean-Marie. Je vous ai entendu tout d'abord. Une petite précision. La Ligue contre le cancer n'est pas une institution d'État. Elle vit entièrement de la générosité du public, des dons et des legs. Elle est donc totalement indépendante et notamment elle est indépendante de l'État. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous faites une suggestion, Jean-Marie, extrêmement intéressante avec le pictogramme. Vous ne croyez pas si bien dire parce que dans certains pays, eh bien, effectivement, il y a des avertissements disant que ce film est ou n'est pas supporté, soutenu par l'industrie du tabac. Et c'est précisément, et nous tombons d'accord, hein, précisément, il s'agit de finalement avertir le spectateur, la spectatrice qui visionne le film du financement du film qu'il est en train de voir. Et donc, nous nous insurgeons contre le fait qu'une industrie aussi précieuse et aussi libre que le cinéma qui participe à la joie de vivre, au plaisir et à la santé, soit dépendante d'une industrie du tabac que vous vendez légalement, monsieur, mais qui, il faut bien le dire, et les Français le savent, est un produit, est un poison extrêmement dangereux. Donc c'est l'information, c'est
l'alcool
aussi, mais nous parlons,
oui, mais
nous parlons
moins
du tabac. Non, mais nous parlons du tabac, là. Excusez-moi.
Ah, oui, d'accord.
On va pas, en 15 secondes, faire la panoplie de tous les produits bénéfiques et dangereux. Hein. Non, nous parlons du tabac. Écoutez, vous avez affaire à quelqu'un qui, en tant que responsable d'un service de pneumologie dans un hôpital public, a assisté à des drames dans des familles considérables. Il faut en tenir compte. Donc, c'est l'information du public. Voilà.
Sur le principe, je suis tout à fait d'accord, professeur. Mais par contre, si je peux me permettre, le coup du pictogramme, bon, vous avez saisi la balle au bon. Mais moi, la polémique, elle est pas là. C'est pas parce qu'on va regarder un film où il y a un acteur qui fume et tout que ça va donner l'envie de fumer. Là, vous êtes en train de dire que l'industrie du cinéma, elle est subventionnée grosso modo par l'industrie du tabac.
C'était le mot placement de produit sur lequel j'ai répondu tout à l'heure.
Voilà.
J'en étais très surpris parce que vous imaginiez, monsieur Hirsch, que c'est au fond, ces cigarettes n'étaient pas là par hasard. Elles n'étaient pas là du fait du créateur, de celui qui avait écrit la fiction. Moi, je n'avais jamais entendu cela, par exemple, monsieur Hirsch. Bon, merci en tout cas, Jean-Marie.
C'est comme le fait, si je peux me permettre de dire une dernière chose, c'est que depuis quelques semaines, on dit qu'il y a une recrudescence de fumeurs en France. Il y a plus de fumeurs en France. Mais c'est absolument faux. Ce qui se passe, c'est qu'à cause du Covid, les fumeurs ont acheté français. Les fumeurs n'ont pas pu aller en Espagne ni en Belgique chercher du tabac moins cher. Ils ont été obligés de venir chez leurs buralistes de proximité ou du coin, qui ont été obligés de payer leurs cigarettes beaucoup plus cher, bien sûr, mais comme ils avaient envie de tabac, ils ne pouvaient pas se déplacer donc dans les pays européens, pourtant, mais limitrophes, avec des prix préférentiels, puisqu'ils sont au moitié prix dans certains pays. Et là, qu'on ne dise pas, et nous, la Confédération, les buralistes de la profession, et les clients ne sont pas dupes non plus, hein, qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des besoins. Bon, excusez-moi,
j'ai compris, Jean-Marie, réponse de M. Hirsch.
Alors, ce matin même, Santé publique France, qui est une agence publique, Santé publique France a publié les derniers chiffres. Il s'agit d'une étude qui est faite sur 15 000 personnes et qui compare le tabagisme de 2019 à 2020. Eh bien, alors qu'il y avait une diminution constante depuis 15 ans, eh bien, c'est stable. Et ce qui est préoccupant, c'est que le tiers des personnes qui ont des ressources économiques les plus basses a augmenté de 3 points son tabagisme. Donc, vous voyez, c'est pas gagné. Hein. Il faut maintenir absolument l'avertissement du public sur les dangers du tabac.
Restez quelques secondes encore, monsieur Hirsch, avec nous. On fait une nouvelle pause et on reprend la conversation. Restez encore. C'est passionnant, d'ailleurs, ce sujet. Je salue Damien Béchiot, qui est là aujourd'hui,
Pascal,
qui nous a proposé cette petite playlist cigarette.
Est-ce qu'il y aura
est-ce qu'il y aura un troisième titre ?
Évidemment.
Eh bien, nous l'attendons dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
À l'école, quand j'étais petit, les grands se cachaient sous leur lit pour fumer en cachette une cigarette.
Eddie Mitchell, je ne connaissais pas ce titre.
On découvre, merci Damien Béchu.
Laurent Tessier.
Nous vous attendons au standard sur d'autres sujets. Cette question, faut-il rendre la vaccination obligatoire pour de nombreuses professions? C'est la recommandation faite par l'Académie nationale de médecine. Le seul moyen, selon elle, pour atteindre une immunité collective suffisante pour contrôler l'épidémie. Enseignants, professionnels de santé, policiers, commerçants, restaurateurs, hôteliers, qu'en pensez-vous? Eh bien, ce n'est pas la meilleure solution pour Thierry sur nos réseaux sociaux. Un grand nom pour Sylvie, on doit laisser le choix à chacun. Grégory en est persuadé, le personnel soignant au contact des personnes fragiles doit être entièrement vacciné. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10. Les propos polémiques de Jean-Marie Bigard samedi lors d'une manifestation contre le pass sanitaire ne manquent pas de faire réagir.
J'ai pas besoin qu'on me colle dans le corps une merde. Dites-moi pourquoi je me ferai vacciner. Donne-moi une raison, vas-y. T'as des couilles, vas-y.
Une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, des insultes aussi contre Agnès Buzyn et Olivier Véran. La ministre Marlène Schiappa a commenté ses propos ce matin chez nos confrères d'info.
Le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup trop et prononce des insultes et des menaces. Moi, je trouve ça illustre vraiment les ravages de l'alcoolisme. Enfin, pardon de le dire, mais moi je suis étonnée dans les commentaires que personne ne fasse référence à ça. On a manifestement quelqu'un qui n'est pas dans un état normal.
Ambiance. Que pensez-vous des propos de Marlène Schiappa? 3210, 3210 sur votre téléphone.
On va terminer la discussion avec Monsieur Hirsch, qui est administrateur de la Ligue contre le cancer. Monsieur Hirsch, je comprends vos arguments. Je les entends, mais entendez aussi, d'une certaine manière, les miens ou les nôtres. Cette société qui se dessine parfois, elle peut être effrayante. Demain, par exemple, viendra peut-être à cette antenne Chantal Perrichon, qui est la présidente de la Ligue contre la violence routière. Et avec des arguments qui seront très intéressants, elle nous dira qu'il faut supprimer le film Taxi. Le film Taxi que vous connaissez, parce qu'on voit un chauffeur de taxi, c'était Samina Seri, rouler dans Marseille comme personne ne doit rouler, faire je ne sais combien de fautes de conduite, etc. Donc vous entendez bien que tout cela, c'est de la fiction. Et moi, cette société qui se dessine, je peux la trouver un poil effrayante. Qu'en pensez-vous, Monsieur Hirsch ?
Ah, mais vous avez raison de trouver la société, dans certaines mesures, effrayante. Mais la question, c'est de la rendre moins effrayante. Et effectivement, la cigarette, on peut la montrer, il n'y a pas de problème. Simplement, il ne faut pas en faire l'apologie. C'est exactement comme le racisme. Vous pouvez montrer des actes racistes à l'écran ou dans les séries, mais de là à en faire l'apologie, c'est un délit. Et donc,
C'est l'interprétation que vous en faites. Moi, j'ai pas le sentiment que soit l'apologie, mais
pour
bon.
Pour le racisme.
Non, mais j'ai pas le sentiment que le cinéma fait l'apologie de la cigarette, par exemple. J'ai l'impression simplement que le créateur met cette indication de personnalité pour dire que le personnage fume le cigare, la pipe, que sais-je. Je ne l'interprète pas comme vous.
Ah ben non, chacun interprète comme il le peut ou comme il le veut, bien entendu. Simplement, soyons clairs. De montrer un personnage, par exemple, comme Gainsbourg, sans cigarette, effectivement, ça n'a pas de sens. Hein. Il n'est pas question de travestir la réalité. Mais moi, ce dont nous parlons, c'est de représenter la société française telle qu'elle est à l'écran. Eh bien, la société française telle qu'elle est à l'écran, eh bien, on ne fume plus dans les lieux du travail, dans les restaurants, dans les bars, dans les discothèques, etc. Et pourquoi on ne fume plus ? C'est parce que depuis la loi Évin, 1991, effectivement, il y a des campagnes d'information et le public peut agir.
J'entends bien. Bon, ben, je vous remercie, Monsieur Hirsch. Voilà. C'était pas vraiment ma question et mon interrogation, mais c'est pas grave.
Vous voyez qu'il y a moyen de discuter.
Ah ben,
je vous souhaite une bonne journée.
Mais c'est très gentil et je vous remercie de votre courtoisie parce que c'était très agréable. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Hirsch.
Au revoir.
Merci. Au revoir, Monsieur Hirsch.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bon. Est-ce que nous changeons de sujet ? Non, nous ne changeons pas de sujet, puisque Marie-Agnès veut encore parler de cela. Bonjour Marie-Agnès.
Oui, bonjour Pascal, encore bravo pour l'émission d'hier soir.
Vous êtes gentille.
Voilà, je ne la loupe pas, jamais.
Mais là, on est sur RTL. Mais,
alors, je vais vous dire, j'ai 73 ans. Je fume depuis l'âge de 30 ans, parce que c'est mon mari qui m'a converti au tabac.
Ah ben.
Lui, il est mort d'un cancer du poumon. Mon père aussi. Je donne pour la Ligue contre le cancer, mais là, il m'a énervé. Je crois que je vais suspendre ma donation. Et, écoutez, il y en a marre d'interdire. Hein. Je suis une vieille 68, j'ai pas fait 68, mais là, j'ai envie de reprendre le slogan de 68, ras-le-bol. Hein, parce que je suis désolée, je sais pas dans quoi il vit, mais moi, si on interdit tout, mais on va se faire chier, hein.
Ça, c'est pas assez métaphorique, l'expression que vous venez d'utiliser, mais surtout...
Mais d'habitude, je suis pas grossière.
Voilà,
mais là...
elle n'est pas adaptée à 13h37 et à l'heure de cette convivialité que nous avons ensemble, chère Marie-Agnès.
Et plus on va interdire, plus on aura... le français est comme ça, plus on aura envie de transgresser. Hein, alors, il parle du tabac, très bien, mais on voit plein de films, il y a plein de séries, et en ce moment il y a une série, je ne sais plus comment elle s'appelle, policière, où on voit des gamins qui sont en train de se piquer ou de sniffer, ou tout ça. Moi, je vais vous dire, ce que vous êtes, l'argument qui a été donné par le buraliste en disant que les gens sont venus acheter leur tabac en France, moi, c'est mes copines qui me rapportent des cartouches d'Espagne. Mmh. Hein, donc là, par la force des choses, depuis un an et demi, elles le font plus. Donc j'ai été chez le buraliste acheter mes cigarettes. C'est pas parce qu'on va montrer les gens en train de... c'était aussi un style de vie, un art de vie. Et c'est pas l'industrie du tabac qui subventionne le... qui subventionne.
Ça, c'était une de mes questions. On va laisser passer une page de pub. Vous fumez combien de cigarettes par jour, Marie-Agnès?
Un paquet.
Ah, c'est beaucoup, un paquet. Parce que, monsieur...
Non, mais j'avale pas la fumée.
Oui, bah, c'est...
Mais j'ai pas eu le Covid.
Non, bah, tout ça, non, bon. Mais monsieur Hirsch, par exemple, c'est intéressant, il dit que c'est un poison. Bien sûr que c'est un poison, mais à haute...
Et tout est un poison.
Non, pas tout, pas tout, pas tout. Mais à haute dose, c'est vrai que... c'est pour ça que c'est des discussions compliquées, parce que si tu dis la cigarette, ça peut être aussi un plaisir. Et toute ma vie, j'en ai fumé 3. Ou 4 dans la journée. Si quelqu'un dit cela, par exemple, bon, et que toute sa vie, il en a fumé 3-4 par jour, bah, a priori, il ne va sans doute pas déclencher un cancer du poumon.
J'ai jamais fumé devant mes enfants, en présence de mes enfants. Mon mari non plus, je n'ai jamais fumé en voiture, devant mes enfants, jamais. Et moi, je me suis mis à fumer très très tard. Ça, c'est parce que depuis 10 ans, je m'en kikine. Et là, je viens de passer 3 semaines confinée avec ma belle-fille. Ça va vous faire rire. Moi, à 73 ans, c'est moi qui allais fumer ma cigarette dehors dans le jardin. Et j'en ai fumé 3. Je peux m'arrêter.
Bon.
Si vous voulez, je peux stopper. Quand je peux m'inviter chez des amis, je ne fume pas.
On continue juste après la pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Cher Laurent.
Ami marseillais, Cyprien Sini s'en est vanté avec son écharpe de l'OM, à jamais les premiers. Il y a 28 ans, le 26 mai 1993, Marseille devenait champion d'Europe. Un but de Basile Boli à la 44e minute face au Milan AC offrait au football français sa première victoire dans la compétition. Et aujourd'hui encore, l'unique.
Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but,
but de Boli, but de Basile Boli sur ce corner.
Eh bien, c'est le moment idéal.
L'émotion aussi, les larmes de Bernard Tapie à votre micro, Pascal, à la fin du match.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Supporters marseillais, venez fêter cet anniversaire au 32-10.
Et on pense à Bernard Tapie aujourd'hui qui se bat contre cette maladie et qui, ces dernières heures, je l'ai eu pour tout vous dire, il était à l'hôpital. Je l'ai eu en fin de matinée et c'est vrai que c'est dur, c'est compliqué parce que les traitements sont rudes, bien sûr, et qu'il les reçoit, il tente tout et il ne baisse pas les bras et il se bat et il explique qu'un traitement peut arriver dans 8 jours, dans 10 jours et qu'il faut être là pour avoir ce traitement. Pourquoi pas? Donc on pense évidemment à lui. Marc est avec nous et on change de sujet. La vaccination obligatoire, et ça c'est un sujet qui peut vraiment nous intéresser parce que l'Académie de médecine souhaite que la vaccination devienne obligatoire pour les professions dites essentielles, donc les enseignants, professions de santé, police, fonction publique, services d'approvisionnement en alimentation, en eau, en énergie, argent liquide, matériel informatique, mais aussi les professionnels au contact avec le public, commerce, restauration, hôtellerie, établissement, mais encore ceux dont les activités comportent des déplacements ou des rassemblements comme des voyages internationaux. Et ce n'est pas fini. Étudiants, enfants, adolescents. En fait, c'est la vaccination pour tous. Qu'en pense Marc? Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes enseignant vous-même. Vous êtes vacciné par exemple?
Non.
Et c'est par hasard, si j'ose dire, ou c'est par choix?
Par choix.
Pourquoi? Mais vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, d'ailleurs.
Ah non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je ne me sens pas vraiment concerné, peut-être à tort, hein, par ce virus. Et je ne veux pas expérimenter ces nouveaux vaccins à ARN modifié.
Bon, en même temps, vous n'êtes pas. On est tous concernés, en fait, disons-le, parce que vous pouvez aussi transmettre la maladie. Bah, oui, vous dites oui, mais vous avez dit je ne suis pas concerné. J'ai été étonné, on est tous concernés.
Je ne me sens pas à risque. Donc,
oui, mais vous pouvez transmettre. Je ne sais pas si vous avez des parents, vivez avec des personnes.
Si les autres sont. Mes parents sont, enfin ma mère est vaccinée par exemple. Donc si les gens sont vaccinés, s'il faut encore être en plus vacciné pour protéger les gens qui sont vaccinés, enfin c'est ceinture et bretelles là, on n'en finit plus quoi.
Bon, en tout cas vous êtes enseignant, donc l'Académie de médecine demande que la vaccination devienne obligatoire par exemple pour vous.
Bah, de toute façon, elle sera obligatoire pour tout le monde, quasiment, parce que si vous faites la liste, effectivement, comme vous l'avez faite, hormis si vous êtes veilleur de nuit dans un musée, vous êtes forcément vacciné, parce que vous êtes toujours en contact, en interaction avec des autres personnes. Donc, la vaccination, mais ça, c'est un grand comité de maison, va devenir, à mon avis, obligatoire. Et moi, je ne me serais pas vacciné, je serais dans l'illégalité, mais il est hors de question que j'expérimente ces vaccins. Voilà.
Et le fait, par exemple, qu'il y ait plus de 20 ou 25 millions en France de gens vaccinés, que le monde entier soit vacciné, qu'Israël soit vacciné et a levé toutes ces restrictions, le mot expérimentation que vous avez utilisé, tous ces gens vaccinés et tous ces gens qui visiblement, sur qui visiblement le vaccin est efficace, ça ne change pas votre raisonnement ou vos convictions?
Non, parce que ça fait des années qu'on a des débats sur les OGM, et là on nous injecte un OGM. Hein, parce que c'est ces vaccins, c'est ni plus ni moins des OGM, c'est des organismes génétiquement modifiés, qui vont modifier votre machinerie cellulaire. Est-ce que vous savez parfaitement comment fonctionne ce vaccin, Pascal?
Non, mais moi, je ne veux pas entrer là-dedans, parce qu'effectivement, si vous me posez cette question-là, je ne peux pas vous répondre. Je veux bien appeler un médecin, je veux bien appeler un généticien, je veux bien appeler le docteur Marty pour que vous ayez la conversation avec vous, mais moi, je ne peux pas rentrer dans cette conversation.
Ah non, mais je ne veux pas vous y emmener, mais à partir du moment, moi-même, je ne suis pas, spécialiste en biologie, mais enfin, je crois que c'est quand même un peu compliqué, quand même, quand on touche à la machinerie cellulaire.
Mais tous les gens qui sont vaccinés dans le monde entier aujourd'hui, manifestement, ça se passe bien.
Oui, mais sur le long terme. Mais c'est très bien que ça fait des années qu'on a des débats sur les OGM, parce que ça peut avoir des effets à long terme. C'est comme quand vous exposez trop au soleil, hormis un coup de soleuil, vous n'aurez pas de problème le lendemain, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous aurez...
Bon, écoutez Marc, vous savez ce qu'on va faire ? On vous met en attente et on va essayer de parler avec un médecin qui peut répondre avec vous à ces questions-là.
Avec plaisir.
Voilà, ça va être intéressant. Je ne sais pas si c'est peut-être davantage un généticien d'ailleurs, peut-être, qu'un médecin généraliste. Mais en tout cas, ça va être intéressant que vous puissiez lui proposer votre analyse. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, Marc est là et puis on a appelé Jérôme Marty. Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Je suis un peu lassé, cher Jérôme, de ces débats. Non, mais c'est vrai, je suis lassé de ces débats à répétition parce que, il y a des millions de gens qui sont vaccinés. Donc, on peut ne pas vouloir se faire vacciner, bien sûr, hein, on a le droit. Mais d'expliquer qu'on ne se fait pas vacciner parce qu'on craint des effets à long terme me paraît étonnant. Alors, je voulais votre avis là-dessus et surtout, c'est celui avec Marc que je vous engage à entamer le débat. Quand Marc dit, effectivement, on n'a pas de recul, comme le soleil, dit-il. Il prend l'exemple du soleil. On prend un coup de soleil et puis 20 ans après, on développe un cancer. Et il a comparé le vaccin aux OGN. Votre réponse, Jérôme Marty?
Ben que la vie est une... Malheureusement, c'est grossier de dire ça, mais la vie est une prise de risque. La maladie qui tue dans 100% des cas, c'est la vie. On est tous exposés à des risques tout au long de notre vie. Tous les médicaments ont des effets secondaires potentiellement dangereux. Le problème, c'est qu'on est dans une comparaison bénéfice-risque entre une pathologie qui est une pandémie, qui frappe sur la Terre entière, dont on sait qu'elle fait des variants, dont on sait qu'elle peut recirculer en permanence et qu'un des moyens de la bloquer, c'est la vaccination avec un effet collectif qui est celui d'une immunité populationnelle qui va empêcher le virus de circuler et permettre à la population de définitivement en sortir comme on l'a fait pour la poliomyélite. Ensuite, il y a une vaccination à l'intérêt individuel qui est celui de la protection de soi et de la protection des autres. Ce n'est pas sans risque, c'est une évidence. On peut très bien avoir des effets secondaires. On va les surveiller. Il y a une pharmacovigilance pour ça. On comprend que des gens aient des doutes, on comprend que des gens aient des peurs, mais s'ils connaissent une autre solution pour en sortir, il faut nous le dire. Moi, j'en ai pas en magasin. Il y aura peut-être des traitements qui sortiront bientôt. C'est pas le cas pour l'instant. On a une vaccination avec des vaccins qui protègent comme aucun vaccin n'a jamais protégé, avec 90% de taux d'efficacité. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc la possibilité de sortir de ce marasme à la fois sanitaire, social et économique. dans les mois qui viennent si on arrive à avoir cette immunité populationnelle.
Alors Marc, qui est enseignant et qui rechigne à se faire vacciner et qui pense effectivement qu'il n'y a pas assez de recul, peut-être souhaite-t-il commenter ce que vous venez de dire ou poser une question, Marc ?
Oui, ben écoutez, j'ai écouté attentivement ce que dit le docteur Marty. J'ai noté qu'il n'écartait pas totalement des effets secondaires à long terme. Et en fait, le but de la manœuvre, finalement, c'est de pouvoir arriver à reprendre une vie normale. C'est un peu le but du jeu, mais finalement, quel est l'intérêt de vacciner des gens qui ne sont pas la cible, enfin comment dire, qui ne sont pas potentiellement en danger avec ce virus. Je ne vois vraiment pas.
Jérôme Marty vous répond.
Je vous réponds, si vous voulez. C'est ce que je vous disais. Il y a un intérêt individuel et un intérêt collectif. L'intérêt individuel, c'est de se protéger soi. Et on peut se dire, après tout, ben, mon gosse, il a quasi aucun risque de développer une pathologie grave. Donc, je ne vois pas l'intérêt de le vacciner. Et le bénéfice-risque est peut-être plus important côté risque, côté bénéfice pour lui, si on ne regarde que l'intérêt individuel. Le problème, c'est qu'on est dans une course qui est une course à l'immunité populationnelle. Cette immunité populationnelle qui permettra de sortir définitivement de cette maladie, on ne peut l'atteindre que si on a vacciné 85 à 90% de la population. 85 à 90% de la population, ça ne peut s'entendre que si on vaccine quasi toutes les générations. Alors, ça doit rester en discussion, c'est une prise de position qui doit être une position nationale, l'Assemblée nationale doit en discuter, et c'est pour ça que, personnellement, j'ai été assez choqué de la position de l'Académie de médecine, parce qu'on ne peut pas décider de ça sur un coin de table.
Mais les enfants, par exemple, selon vous, quoi, les enfants, à partir de 12 ans, devraient être vaccinés, selon vous ?
Si on veut en arriver à l'immunité populationnelle, on ne pourra pas l'éviter. Parce que vous avez, en gros, 10-15% aujourd'hui de gens qui sont de la mouvance anti-vax. Si vous rajoutez les 10-15% que représentent, et même un peu plus, enfants et adolescents, vous voyez clairement que vous avez en permanence 30-35% de la population qui ne sera pas vaccinée, et donc l'immunité populationnelle sera une chimère. Ce qui veut dire qu'en permanence, vous aurez une pression de sélection avec des variants qui peuvent circuler, et un jour ou l'autre, un variant résistant à l'ensemble des vaccins, et là, on repartira pour un énième confinement, etc., ce que l'on veut absolument éviter.
Quand vous dites que vous n'écartez pas les effets à long terme, mais qu'est-ce que ça peut être un effet à long terme d'un vaccin sur un patient ? Ça m'intéresse.
Ben, qu'est-ce que ça peut être ? On peut découvrir une pathologie qui va apparaître ou être favorisée par un vaccin 10, 15, 20 ans après, comme on l'a vu dans un certain nombre d'autres cas, mais comme on peut le voir avec d'autres médicaments. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est
oui,
que...
Oui, mais par exemple, c'est quoi une pathologie ? Un cancer, par exemple ? On pourrait développer un cancer ? Un AVC ? Mais
on pourrait développer des incidents immunologiques à distance. Mais ça,
c'est quoi un accident immunologique à distance ?
Mais le fait que
c'est dans 10 ans.
Le fait que votre organisme va favoriser peut-être une hémopathie, une maladie du sang ou autre à distance, très très loin... On ne peut pas l'écarter, pour la bonne raison qu'en médecine, on a un principe qui est jamais, jamais, jamais toujours.
Et ça, c'est le vaccin qui réagirait comme ça.
Personne ne peut le certifier. Ce qui est certain, c'est que... Mais personne ne peut le certifier avec aucun médicament. Même si on a beaucoup de recul, personne ne peut savoir si dans 40 ans, 50 ans, 60 ans... La seule différence qu'il y a avec ce vaccin-là, avec ceux qu'on utilise, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde, c'est que là, on a un médicament, en quelque sorte, qui est utilisé sur des milliards d'êtres humains. Il y a plus d'un milliard d'hommes et de femmes qui ont été vaccinés. Et si vous regardez un équivalent temps, en quelque sorte, le nombre de mois passés multiplié par le milliard d'individus vaccinés, ça nous donne quand même un recul extrêmement important sur la qualité des effets secondaires. Et aujourd'hui, nous n'avons pas noté d'effets secondaires graves, hormis ce qui a été mis en évidence pour AstraZeneca, qui sont ces fameuses coagulations intravasculaires disséminées avec des thromboses qui peuvent être des thromboses gravissimes cérébrales dans quelques cas, qu'on n'a pas pu, dont on pense qu'elles sont liées au vaccin. Mais nous n'avons pas noté d'autres choses. Par contre, ce que nous savons, c'est que cette pathologie est éminemment dangereuse sur un certain nombre de populations, et que des variants peuvent frapper des gens plus jeunes, etc., et qu'il faut arriver à en sortir.
Bon, ben, merci beaucoup. Moi, je me projette dans 60 ans. Je vous préviens, Jérôme Marty, si à 117 ans, j'ai un petit problème, parce que je compte arriver jusque-là, je vous jure, je vous appelle et ça ira mal à cause du vaccin. Si à 117 ans... Si à 117 ans, j'ai un petit souci immunologique, franchement, je vous appelle.
Pour ne perdez pas mon numéro.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
On va continuer évidemment cette question, faut-il rendre le vaccin obligatoire? Mais tout d'abord, le flash à 14h. Le flash avec Hortense Crépin.
Après la découverte de 60 cas d'un variant du coronavirus jugé préoccupant, un centre de vaccination éphémère ouvre cet après-midi dans le quartier Bacalan de Bordeaux. Objectif, vacciner 10 000 personnes d'ici 3 semaines. De son côté, Gabriel Attal explique que la situation sanitaire du pays s'améliore très sensiblement et annonce le franchissement du seuil des 24 millions de vaccinés d'ici ce soir. Le porte-parole du gouvernement parle aussi de la mise en place d'un isolement obligatoire pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni face au risque du variant indien. La date d'application sera connue dans les prochaines heures. Les agents publics vont pouvoir retravailler en présentiel 2 jours par semaine à partir du 9 juin s'ils le souhaitent. Puis si la situation sanitaire le permet, ce sera 3 jours dès le 1er juillet. Le retour au régime classique est prévu le 1er septembre. Pour le Kremlin, il n'y a aucune raison de ne pas croire à l'explication du président biélorusse sur l'avion dérouté dimanche. Dans un discours, Alexandre Loukachenko a justifié le détournement par une alerte à la bombe, mais pas pour arrêter un opposant, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU tient une réunion aujourd'hui à huis clos à ce sujet. En football, le retour à Clairefontaine pour Karim Benzema. Les Bleus vont débuter leur préparation pour l'Euro. L'arrivée de Paul Pogba, ce sera un peu plus tard. Le milieu de terrain de Manchester United dispute ce soir la finale de la Ligue Europa contre Villarreal. Coup d'envoi à 21h. Et puis la 17e étape en cours du Giro. Il reste un peu plus de 100 km aux coureurs pour rejoindre Segadiala. Le maillot rose toujours sur les épaules du Colombien Egan Bernal. La météo demain après une France coupée en deux aujourd'hui avec des averses au nord et des éclaircies au sud. Ça va s'améliorer tout doucement avec beaucoup de nuages au nord, surtout entre la Bretagne et le Jura, et quelques averses à l'est. Et des températures en hausse au nord comme au sud, 16 à Cherbourg, 18 à Lille et Nancy et 27 à Marseille. Les courses, c'était au Croisé-la-Roche, la combinaison gagnante, 13, 7, 6, 3 et 16. 14h et 2 minutes sur RTL. Et la suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci Hortense.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Nous sommes avec... Alors d'abord, on remercie Marc qui a pu échanger avec le docteur Marty. Merci beaucoup Marc pour votre message et pour ce que vous nous avez dit sur votre difficulté ou votre réticence à vous faire vacciner. On est maintenant avec Marie-Lise, peut-être, Marie-Lise, qui est commerçante. Et alors vous seriez concernée par cette vaccination que l'Académie de médecine souhaiterait obligatoire parce que vous êtes au contact de la population.
Bonjour Pascal Pro, bonjour à tous. Oui, effectivement, moi j'ai un bureau de tabac sur Honfleur dans le Calvados. Et avec le nombre de clients que nous voyons, moi, pour moi, tous les commerçants, les instituteurs, les professions de santé, tout celui, en fin de compte, qui est en contact avec le public, devrait être ça devrait être obligatoire d'être vacciné. Pour moi, c'est mon point de vue. Aussi bien pour nous, mais surtout pour protéger tous les gens que l'on rencontre toute la journée. Voilà. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre interlocuteur d'avant, surtout qu'il est enseignant, qu'il rencontre énormément... Enfin, il est avec des enfants, plus ou moins grands, hein, mais... Et donc, pour moi, ça devrait être obligatoire.
Écoutez, j'entends, puisque vous êtes sur la position de l'Académie de médecine. Donc là encore, tous les arguments en fait sont audibles. C'est pour ça que c'est très compliqué de prendre des décisions. Parce que souvent, en fait, quand j'entends un argument, je me dis « bah oui, effectivement ». Et puis après, je vais entendre un argument contraire, je me dis « bah oui, aussi, aussi ». Et après, il faut trancher. Faut trancher.
Voilà,
et c'est ça la difficulté.
Alors, il faut trancher, mais il faut aussi penser aux autres.
Oui. Mais il faut penser aux autres, mais en même temps, il faut respecter la liberté individuelle de chacun. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très dur, en fait, de trancher sur un débat comme celui-là. La liberté individuelle de chacun, ça s'entend. Quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, ça s'entend.
Oui, alors celui qui est au fin fond de la brousse, qui ne sort pas, qui se fait livrer...
Mais même qui est au contact des autres, même il est au contact des autres, mais il ne veut pas se faire vacciner. Pour une raison X ou Y.
Bah oui,
c'est
mais moi
droit,
je suis...
d'une certaine manière. Alors... Ou alors, on est dans une société où la liberté individuelle n'existe pas ou peu. Vous me direz d'ailleurs qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires, comme le tétanos,
voilà,
par exemple.
Oui, déjà. Mais alors, je comprends hein, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Dans mes clients, j'en ai quelques-uns. Mais je leur dis, est-ce que vous pensez aux autres ?
Et qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Alors, certains, oui, moi je pense à moi, déjà c'est bien. Et voilà. Oui, non, mais bon. Et puis, il y en a certains qui, quand on leur dit ça, ils disent oui, effectivement. Les autres, il faut y penser aussi. Les grands, les parents et les ascendants, les descendants.
Vous connaissez cette phrase que je cite parfois à l'antenne, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi.
Voilà, exactement. Oui, je vous suis déjà le soir, tous les soirs, avec grand bonheur. Mais bon, là, je comprends. Hein, je comprends les gens qui ne veulent pas. Mais il faut penser aux autres.
Bon, bah écoutez, pensons aux autres, Marie-Lise. Et en tout cas, c'est un peu culpabilisant d'ailleurs de dire ça, parce que ça veut dire que celui qui aime la liberté individuelle, il ne pense pas aux autres. Mais je m'aperçois que ces discussions, si on a un avis divergent, c'est très difficile de débattre. C'est très compliqué parce que c'est des positions figées de chaque côté. Valérie est là, elle est infirmière et elle va nous parler tout de suite après la pause. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On était donc avec Marie-Lise, on va être avec Valérie. Valérie qui est infirmière, mais paradoxalement qui n'est pas vaccinée. Bonjour.
Bonjour
Valérie. Et je dis paradoxalement, alors les vaccins qui sont devenus obligatoires, il y a la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, il y a également l'hémophilus, c'est la bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites, la coqueluche est obligatoire, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la méningocoque C, le pneumocoque. Donc ça, c'est vrai que c'est...
Pour le personnel soignant, c'est surtout hépatite B et diphtérie, tétanos, polio.
Bon, et ça,
le
vous
reste
êtes,
n'est pas une obligation.
Vous êtes, vous, vacciné contre ces maladies. Mais, bon, là, vous ne voulez pas être vacciné.
J'ai pas dit que je ne veux pas. J'ai dit que pour l'instant, je ne l'étais pas.
Et pourquoi vous n'êtes pas ?
J'attends.
Vous attendez quoi ?
J'attends que le train passe. Non, je rigole.
Non, mais vous c'est une bonne réponse. Elle est un peu poétique, même philosophique.
J'attends parce que y a un peu, c'est comme les marques de shampoing, il y a trop de marques de vaccins. On change constamment notre pratique par rapport aux différentes recommandations de l'HAS. Ça me dérange un peu. Moi, j'aime bien les choses qui sont claires, donc j'attends que les choses se clarifient.
Oui, mais vous attendez quoi parce qu'elles ne vont pas se clarifier le 15 juillet ni le 15 août.
Si c'est l'année prochaine, ce sera l'année prochaine. Oui. Hein,
donc en fait, vous attendez que tout le monde soit vacciné pour ne pas vous faire vacciner.
Non, pas du tout. J'attends qu'on nous dise, voilà, avec certitude, tel vaccin protège, immunise à autant de pourcents.
Mais ça, c'est ce qu'a dit le... Il n'y aura rien de nouveau dans les 6 mois. Hein. On vous dira la même chose. Parce qu'on ne vous dira pas, par définition, ce qui se passe dans 20 ans.
Ah non, bien évidemment. Bien sûr qu'on ne nous dira pas ce qui se passe. Non, c'est pas le problème. Mais moi, pour l'instant, je...
En fait, vous ne voulez pas vous faire vacciner. Dans 6 mois, vous ne serez pas vacciné. Mais vous avez le droit, en plus, franchement, Valérie.
Non, mais je n'ai pas dit que je ne voulais pas. Vous déformez mes propos. Je n'ai jamais parlé que vous ne voulez pas.
Mais ça, il va arriver. En 3 mois, il va passer. La situation ne va pas changer.
Non, mais enfin, il y aura peut-être plus qu'un seul vaccin où on connaîtra bien à long terme l'immunité. Pour l'instant, dites-moi, l'immunité au niveau sérologique, quelle est l'immunité sûre auprès des gens vaccinés ?
Bon, allez, visiblement,
moi, je vois des gens vaccinés dont l'immunité est zéro. Ah, je suis désolée. Je vois des gens dont l'immunité, les anticorps sont de zéro après 2 injections. Donc, pour l'instant, moi, rien ne me prouve que la vaccination...
La vaccination, ça marche. En Israël, et je l'ai dit hier, c'est un cadre chimiquement pur. Convenez-en, vous avez 9 millions de personnes. Je ne sais combien sont vaccinées, mais on est à quasiment 80%. Toutes les restrictions sont levées et l'épidémie est terminée. Donc ça, c'est un cas d'école.
Pour l'instant.
Bah pour l'instant, oui, c'est possible.
On nous dit ce qu'on veut bien nous dire.
Parce que vous ne croyez pas aux chiffres israéliens non plus. Vous croyez que ce que je vous dis est faux. Non, mais Valérie.
Non.
Bah si, c'est ce que vous dites.
Est faux. Je dis juste que il y a aussi des cas en Israël qui reviennent. On ne nous en parle pas, évidemment. On nous parle que de ce qui fonctionne. Je ne dis pas que ça fonctionne.
Il y aura toujours des cas, mais l'épidémie est arrêtée. Les restrictions n'existent plus.
Eux, ils n'ont eu que Pfizer en plus, pour l'instant.
Donc vous voyez, il y a un moment, on peut... Ce que je vous dis, quoi, ce que rapportent les journalistes, ce sont des faits. Alors évidemment, il y a sûrement des gens qui ont encore la Covid, bien sûr. Mais l'épidémie n'existe plus. Elle est stoppée.
Tant mieux pour eux.
Oui, mais est-ce que ça vous convainc?
À la preuve que non, puisque moi je suis...
Et c'est ça qui m'intéresse. Tous les jours, je pose la question, pourquoi ça ne vous convainc pas, à votre avis?
Parce que moi, je vois d'autres choses sur l'Israël. On nous montre que le bon côté, il n'y a pas que ça au niveau média.
Mais qu'est-ce que vous voyez d'autres choses? Mais alors, on est dans des choses complotistes. Qu'est-ce qui vous avez vu sur...
Ah non, je ne suis pas dans le complotisme.
Monsieur Cohen, qui est le grand épidémiologiste d'Israël. Il ne me raconte pas de salade. Ça s'est arrêté. C'est pour ça que j'aime bien pousser parfois les discussions avec les auditeurs. Parce que qu'est-ce que vous avez vu qui remettrait en cause l'espèce de vérité officielle d'Israël?
Moi, il y a des effets secondaires qui me font flipper. Je reconnais que moi, il y a des effets secondaires qui m'inquiètent. J'ai aucune envie d'être malade, alors que pour l'instant, je vais bien. Je veux m'assurer que ce qu'on m'injecte ne va pas me provoquer je ne sais quoi. Il y a eu des cas en Israël qui ont provoqué des problèmes cardiaques importants.
Mais c'est vrai, vous avez raison. Il y a un cas sur je ne sais combien, vous avez raison. Il y a même des gens peut-être qui sont décédés.
Il y a plusieurs cas. Je reconnais qu'un vaccin, effectivement, quand on s'est vacciné même contre la grippe, je le fais chaque année. On connaît les effets d'un vaccin, et notamment la grippe. Oui, on a un peu de courbature, de frisson. Ça dure 24 heures, c'est terminé, c'est réglé en 24 heures. Là, moi, je vois beaucoup d'effets secondaires tellement différents, avec des gens qui sont quand même des fois pas bien plusieurs jours d'affilée, qui ont même des fois des états de fatigue qui durent dans le temps.
À cause du vaccin?
Oui. Qui font même un Covid, même en étant vaccinés. Vous allez dire qu'il me faut 36 000 preuves, on n'aura jamais peut-être la preuve de tout. C'est vrai, on n'aura peut-être jamais la preuve de tout, de la certitude et de la bonne faisabilité de ce vaccin, de la protection sûre, du non-effet secondaire, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, il y a trop de vaccins, on a trop changé. AstraZeneca, après on a arrêté. Ah ben, ceux qui ont fait de l'Astra, ils auront ça, mais il faudra attendre 12 semaines pour être sûr. Ah ben non, finalement, on réduit, on fait à 9 semaines. Il y a trop d'incertitudes. Moi, la diphtérie tétanos, j'aimerais bien savoir qui est sûr d'être encore vacciné contre la diphtérie tétanos polio, parce qu'on parle d'obligation vaccinale. Mais par exemple, vous, Pascal, est-ce que vous savez si vous êtes à jour au niveau des TP?
C'est-à-dire qu'il faut refaire les vaccins tous les combien de temps?
Ah ben voilà. Normalement, avant, c'était tous les 10 ans le DTP. Maintenant, c'est tous les 20 ans. C'est à partir de 65 ans, on revient à tous les 10 ans.
Oui.
Je ne suis pas sûre que tout le monde ne connaisse.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. En revanche, on va marquer une nouvelle pause, mais l'argument que vous donnez, alors celui-là, je veux bien l'entendre, de dire qu'il y a une probabilité sur 150 000, par exemple, d'avoir un effet secondaire grave ou même de mourir. Et moi, je ne veux pas courir cette probabilité. Ça, j'entends cet argument. Je peux dire ce n'est qu'une fois sur 150 000, mais je l'entends. Quelqu'un qui me dit ça, je dis oui. Ça, c'est un argument. Mais ce que je n'entends pas, c'est de dire où ça marche pas, où le vaccin n'est pas efficace, où ça n'arrête pas l'épidémie, etc. Mais quelqu'un qui vient me dire, moi, j'ai pas envie de courir le risque une fois sur 150 000 parce que je m'en fiche de penser aux autres et je pense d'abord à moi-même. S'il le dit comme ça, c'est son argument. C'est très difficile à contrer. D'ailleurs, j'entends. J'entends. Et c'est un peu ce que vous avez dit, Valérie, un moment, en disant, moi, j'ai peur ou j'ai pas envie de courir ce risque-là. Pourquoi pas? Merci en tout cas de votre franchise, Valérie.
Rien, Pascal.
Et c'est intéressant toujours d'essayer de pousser parfois forcément un peu la discussion et de savoir précisément ce que pensent les uns et les autres. N'est-il pas Damien Béchiot ?
Vous avez tout à fait raison, Pascal. Comme souvent.
Ça, c'est un peu flacorneur, quand même.
Pardon.
C'est un peu... C'est toucher ma bosse, monseigneur, elle vous portera bonheur. 14h16.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Sophie, adjoint administratif, faut-il rendre le vaccin obligatoire ? C'est notre question. Bonjour Sophie, vous seriez peut-être concernée si l'Académie de médecine était entendue, puisque vous appartenez à la fonction publique.
Ben oui, tout à fait. Sans doute qu'on aurait une pression.
Ouais. Une pression forte, puisque ce serait obligatoire en l'espèce si l'Académie était entendue.
Ouais, mais...
Et qu'en pensez-vous ?
Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ben non, je ne suis pas du tout d'accord.
Pourquoi ?
Ben parce qu'on n'a pas obligé quiconque à se faire vacciner. On n'a jamais vu ça nulle part dans le monde. C'est hors de question.
Vous avez raison dire que personne, la vaccination n'est obligatoire pour la Covid-19 nulle part dans le monde. C'est très important que vous venez de dire.
Oui, mais même pour n'importe quel autre vaccin.
Il y a des vaccins obligatoires en France.
Oui, mais des vaccins obligatoires en fonction du métier, mais pas là pour tout le monde. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça sera toute la population. Même les enfants. Sans avoir aucun recul. On parle de stérilité pour les enfants, on parle de maladies et même des décès, tous les décès qu'on voit. Moi, si c'est ça, effectivement, je préfère perdre mon travail. Et je ne suis pas la seule. Dans mon service, on est toutes comme ça. On préfère perdre notre travail, quitte à même quitter la France, s'il le faut. Mais il est hors de question qu'on nous impose une vaccination et sans savoir quels seront les effets.
Vous me permettez quand même, Sophie, de dire qu'il y a un peu d'irrationnel dans ce que vous dites. Des morts,
Après
vaccin.
Il y a la même probabilité
que pour tous les vaccins, j'imagine. Il n'y en a pas davantage.
Non, il y en a plus avec ce vaccin. Il y en a beaucoup plus.
Il ne me semble pas, Sophie.
Il faut se renseigner. Je me renseigne comme tout un chacun. Je vous assure.
Mais vous connaissez le pourcentage de morts par injection, par nombre d'injections ?
Je ne l'ai pas là sous les yeux, mais je sais qu'il est supérieur. Depuis qu'on a commencé les vaccinations, il est supérieur à la mort du Covid directement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que...
Les gens meurent plus avec le vaccin que du Covid ?
Dans la proportion, oui, tout à fait. Et de toute façon, je pense que quand on va commencer à s'attaquer aux enfants, je pense que les parents vont peut-être réagir. Enfin, j'espère pour eux, parce que les pauvres enfants... mais ça, c'est clair que moi, je préfère perdre mon travail plutôt que de... La santé, c'est la seule richesse que l'on a. Donc ça doit être chacun, la responsabilité de chacun. La responsabilité collective, j'y crois pas du tout. Ça, c'est du communisme. Moi, pour moi, c'est la responsabilité de chacun. Donc celui qui veut se faire vacciner, le fait. Normalement, il est censé être protégé.
Mais lorsque tout à l'heure, le docteur Marty expliquait qu'il fallait une immunité à 90% de tous, ça réclamait la responsabilité de collective. Mais Sophie, on n'a plus le temps d'aller au-delà. Je vous propose peut-être de nous appeler demain parce qu'il est déjà 14h23 et l'ami Laurent Tessier propose le débrief. Merci Sophie. Laurent, à maintenant.
Allons-y.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Mesdames, messieurs, rappelons cette célèbre phrase.
Dieu est un fumeur de Havane.
Dieu est un fumeur de Havane.
C'est la question qui vous a fait réagir au 3210. Faut-il interdire la cigarette dans les films français ? La Ligue contre le cancer lance un cri d'alarme. Il y aurait trop de fumeurs sur nos écrans. Un peu plus de 2 minutes en moyenne par film. Du grand n'importe quoi pour Cédric.
C'est pas parce qu'on regarde 2 minutes 6 d'un film, ça me fait envie de fumer. J'ai regardé La Petite Maison à la Prairie toute mon enfance. Je suis pas devenu agriculteur. Je veux dire, à un moment...
Cédric est vraiment en colère et continue son coup de gueule.
Le film, c'est du cinéma. Aujourd'hui, je vois pas Al Capone rentrer dans son bureau sans une cigarette à la bouche. Je veux dire, ça fait aussi un peu partie... Ça fait un peu caïd, ça fait un peu... Mais c'est du film.
Mais s'il vous plaît, animons un peu l'émission, car...
Le débat, c'est la vie, comme dit souvent notre ami Christian Olivier.
Vous avez raison, Pascal. Faisons rentrer un invité. toc toc, qui est là?
Monsieur Albert Hirsch est avec nous, il est administrateur de la Ligue contre le cancer. Bonjour monsieur Hirsch.
Bonjour.
Et là, je peux vous dire que Christian Olivier, le chef du service des sports de RTL, nous écoute, il est au taquet.
On va se régaler, je vous l'assure.
Vous avez raison Christian, le professeur Albert Hirsch a bien préparé ses arguments.
La manipulation de l'industrie du tabac qui prend en otage l'industrie du cinéma. On peut montrer la cigarette, on peut montrer le fait de fumer, mais de là à faire l'apologie de la cigarette, il n'en est pas question.
Ce qui est sûr, c'est que ces arguments vous énervent, Pascal.
Pour ça, les voitures, pas... vous voulez également supprimer les voitures qui roulent vite parce que mais les westerns, faut les supprimer aussi? Parce que ça peut inciter quelqu'un à tuer un western.
Bon, animons encore plus l'émission. Ne partez pas, professeur Hirsch.
Mais non, restez avec nous parce qu'un buraliste va vouloir entrer en conversation avec vous.
Ouais, ce buraliste, c'est Jean-Marie, il est venu avec sa punchline.
J'ai vu au César le capitaine Merlot se mettre à poil. Ça m'a pas spécialement donné envie de rentrer dans la gendarmerie. Hein, vous voyez ce que je veux dire?
Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour tous les supporters marseillais.
En France, il y a le 14 juillet, à Marseille, il y a le 26 mai.
Le 26 mai 1993. Marseille devenait champion d'Europe avec ce but de Basile Boli face au Milan AC. Ah mais, il y a en régie des supporters du Paris Saint-Germain. Est-ce que je dois leur donner la parole?
C'est des couilles, vas-y!
Ok Jean-Marie, qu'y a-t-il ami parisien, vous qui n'avez remporté qu'une Coupe de France cette saison?
Oh shot l'OM! Oh shot l'OM! Oh shot l'OM!
C'est facile tout ça, on rappelle quand même Pascal, Marseille.
À jamais les premiers.
Eh oui, allez, débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Sujet sur la cigarette oblige, on se quitte avec Sylvie Vartan et ça nous fait du bien aux oreilles.
Bravo pour ce débrief. Flavie Flamand est là, elle est en régie. Elle va arriver dans ce studio dans une seconde.